Voilà, bonjour à tout un chacun, à vous qui êtes présents ici, comme à ceux et à celles qui nous regardent ce matin par Internet. Alors que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et que son nom soit béni en ce lieu. Amen. La prédication de ce matin s'intitule « L'été est proche ». Alors dit comme ça, hors contexte, cette affirmation, elle semble tout droit sortie d'un bulletin météo, n'est-ce pas ? Et même plutôt du nouveau journal Météo-Climat de France Télévisions qui nous parle du dérèglement climatique. Parce qu'en effet, proche, ça veut dire à proximité, ça veut dire approchant, ça veut dire qu'il va bientôt arriver. Mais étant donné que nous ne sommes aujourd'hui finalement que le 26 novembre, en automne donc, on pourrait ce matin douter avec raison de la fiabilité de la prévision. L'été arrive, quel optimisme. Mais maintenant, au-delà du trait d'humour, il faut penser météo biblique. Et si on est dans cette façon de penser, alors le titre, eh bien, il reste pertinent, tout en nous emmenant dans un autre registre de compréhension, évidemment. Vous serez d'accord avec moi que l'été, c'est la saison du soleil, et qu'en été, le soleil se manifeste là, à ce moment-là, avec le plus d'intensité, en luminosité, comme en chaleur. Or, d'après le prophète Malachie, qui a écrit le dernier livre de l'Ancien Testament dans votre Bible, d'après ce prophète, le soleil symbolise Christ. Malachie, chapitre 4, verset 2, nous dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est Dieu qui parle, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Christ est le soleil qui vient nous éclairer. Il est le soleil qui nous sauve et nous justifie. Ceux qui marchent dans ses voies, frères et sœurs, sont au bénéfice de sa chaleur bienfaisante qui guérit nos peines et nos maladies. Amen. Dans Luc 1, versets 77 à 79, c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, pas l'auteur du livre de Zacharie, qui prophétise la venue d'un puissant sauveur qui rachètera son peuple. Et il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Jésus, notre soleil levant, il est descendu de son ciel de gloire pour apporter la lumière du salut à tous les perdus, pour les conduire de la mort spirituelle, c'est ce que représentent les ténèbres, l'ombre de la mort, pour les conduire de la mort spirituelle à la réconciliation avec Dieu, le chemin de la paix. Dans Nombre 24, nous avons un certain Balaam, un devin idolâtre, qui annonce cette fois sous l'action du Saint-Esprit, comme quoi cela nous montre que le Seigneur utilise qui il veut pour la manifestation de ses plans. Et ce devin, il annonce l'événement le plus important pour Israël, mais aussi pour toute l'humanité, il annonce la venue du Messie, du milieu de Jacob, c'est-à-dire du milieu du peuple d'Israël. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. On comprend que cet astre, c'est prophétiquement le Messie, le Sauveur, cet astre, c'est Jésus-Christ. Ce que confirme Apocalypse 22 au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus, notre étoile brillante qui apporte lumière et espoir au monde. » Donc si on résume, L'été, c'est la saison du soleil et de la lumière par excellence, qui, dans les textes que nous avons lus, sont identifiés à Jésus. Mais c'est aussi le temps de la moisson, l'été. Ça ne veut plus dire grand-chose pour nous, hein, dans notre société, la moisson. Bon. Mais c'est aussi le temps de la moisson, qui se déroule normalement à partir de mi-juillet, fin juillet, début août. Hein. Le temps de la moisson, où le Seigneur Jésus rassemblera ses gerbes, où il rassemblera ses rachetés. L'été est proche dans la Bible. C'est donc une image qui nous parle de l'espérance vivante de l'Église, qui est le retour en gloire du Seigneur Jésus dans les cieux pour prendre son Église auprès de lui. Amen. Jean 14, versets 2 à 4 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le Seigneur, frères et sœurs, doit donc revenir pour enlever sa bien-aimée, l'Église. Et déjà, dès le départ, les disciples, les chrétiens, eh bien, ils aspiraient à vivre le retour du Messie, dès le début. Alors j'ouvre une parenthèse, il faut savoir que ces disciples, ces apôtres, eh bien, ils pensaient en fait au royaume terrestre que Jésus établirait avec gloire et puissance, mais dans leur génération à eux, pour les délivrer de l'occupant romain, de sa domination sur Israël. Et on voit qu'ils n'avaient pas la pleine compréhension spirituelle du retour de Christ en levant son Église. On ferme la parenthèse. À cette époque-là, il y avait des persécutions qui pouvaient aller jusqu'à la mort pour refus d'abjurer la foi, puisque les Romains exigeaient que l'empereur soit adoré comme étant un dieu. Et évidemment, c'était conflictuel, hein, avec les chrétiens. Et donc, vivant ce type de choses-là, eh bien, c'était l'aspiration au prochain retour du Seigneur qui leur donnait la force de persévérer, de rester fidèles dans la foi. Et plusieurs fois, les apôtres ont interrogé Jésus sur ce sujet. Une première fois, par exemple, dans Matthieu 24, verset 3, ils disent au Seigneur, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» La réponse de Jésus au verset 36 fut, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et une autre fois, dans Actes 1, verset 6, les apôtres ont demandé au Seigneur, « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Au verset 7, Jésus a répondu, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Alors, sans réévoquer la nature de leur attente, eh bien, la réponse de Jésus est qu'ils n'avaient pas à connaître la date précise de la venue de son royaume, qui a été fixée par le Père seul et qu'il a décidé de garder caché aux yeux de tous. Alors, on peut préjuger, sans crainte de se tromper, que Dieu a de bonnes raisons d'agir ainsi, de ne pas révéler les échéances précises de l'avènement de son Fils. Il est dans la souveraineté de son omniscience. Les apôtres auraient-ils pu entendre, qu'il s'écoulerait au moins 2000 ans avant l'événement attendu ? L'Église ne se serait-elle pas découragée et assoupie encore plus vite que ce qui a été ? Et ça nous évoque la parabole dite des 10 vierges, qui se situe dans Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.
au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. » Les dix vierges, qu'elles soient folles ou sages, j'aime bien, elles représentent l'Église, on l'a compris. L'Église qui se garde pure pour l'époux qui est le Seigneur. Et on est juste avant le retour de l'époux, nous dit la parabole. Au départ, on voit que toutes, folles comme sages, ont de l'huile dans leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Mais les folles n'ont pas pris de réserve d'huile pour leur lampe. On peut comprendre qu'elles ont bien fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais qu'elles n'ont pas intégré la nécessaire marche progressive dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous dit Hébreux 12, au verset 14. Ces vierges-là, ces vierges folles, elles symbolisent les personnes charnelles. Les vierges sages, elles ont fait une provision d'huile pour leur lampe, parce qu'elles ont compris la nécessité d'être toujours remplies du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne de tous les jours. Éphésiens 5, verset 18 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Et ces vierges-là, eh bien, elles se laissent sanctifier par le Seigneur au quotidien. Elles symbolisent les personnes spirituelles. Et ce que l'on vient de lire, en fait, c'est l'état de l'Église dans les derniers temps. Le Seigneur nous montre ainsi que seul une partie de cette Église aura conscience de son besoin de communion intime avec le Saint-Esprit, d'être remplie du Saint-Esprit. Mais voilà que l'époux tarde, est-il dit. C'est trop long, Seigneur. Et ça, c'est ce que nous pourrions dire nous aussi, en considérant que cette espérance qui est chevillée au cœur des croyants, du retour en gloire du Seigneur, pour chercher son Église, eh bien, elle est encore en attente d'accomplissement depuis 2000 ans. C'est trop long, Seigneur. Mais en fait, non, nous dit 2 Pierre 3, verset 8-9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et c'est pourquoi les Écritures peuvent dire qu'il revient bientôt. N'est-ce pas? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si l'attente de son avènement dure encore, c'est que le Seigneur, qui connaît toutes choses, eh bien, il veut que tous ceux qui doivent être sauvés, eh bien, soient mis à l'abri, qu'ils soient rentrés dans la bergerie. Romains 11, verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Et de la même façon, l'expression « la fin des temps » ou « les temps de la fin » eh bien, s'applique à l'intervalle de temps qui est compris entre la première venue de Jésus et celle de son retour à venir. Donc on est dans les derniers temps, depuis la venue de Jésus sur la terre en fait. Nous quand on dit derniers temps, on pense maintenant, là en ce moment, bientôt. Mais les derniers temps, d'après la parole, commencent avec la venue de Jésus sur la terre. Et donc c'est un intervalle qui est ouvert pour l'instant. 1 Pierre 1, verset 19-20, nous parle de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fin du monde et manifesté à la fin des temps. Hein, c'est ce qu'on vient de dire, à cause de vous. Alors donc, comme c'est trop long, eh bien, toutes les vierges, elles piquent du nez hein, et s'assoupissent avec leurs lampes allumées. On peut voir dans cette nuit-là aussi les siècles d'ignorance qui ont recouvert en fait le christianisme authentique depuis l'institution du christianisme en tant que religion officielle de l'Empire romain par un certain Constantin en l'an 313, n'est-ce pas? Alors à l'arrivée de l'époux, les dix vierges, ben, elles se réveillent, elles se sont assoupies, elles se réveillent. Mais seules les vierges sages ont encore suffisamment d'huile, parce qu'elles avaient fait une provision, pour aller à sa rencontre. Et le marié ne prend avec lui que les vierges sages, parce qu'elles étaient prêtes. Et ça, c'est le mot d'ordre de ce matin, de notre message. Il faut être prêt. Donc il vient prendre avec lui, il fait rentrer dans la salle des noces les vierges sages, et la porte est fermée, plus de possibilité de rentrer. Matthieu 25, verset 11-12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas !» Elles avaient plus de lumière sur leurs lampes. Dans la nuit, il ne les a pas connues. Jésus reconnaîtra seuls ceux qui brillent de la lumière du Saint-Esprit. Matthieu 25, verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez, ça veut dire rester volontairement éveillé. Ça veut dire faire attention, ça veut dire être de garde. Frères et sœurs, il nous faut être prêts. Il nous faut faire attention. Cette parabole, elle nous enseigne qu'à la fin des temps, dans les temps derniers, donc là on dit maintenant, Jésus reviendra chercher son Église pour laquelle il a donné sa vie sur la croix. C'est notre espérance. Une Église qui paraîtra devant lui, nous dit Éphésiens 5 au verset 27, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et le Seigneur veut que nous y soyons toujours préparés à cette échéance pour éviter ce qui s'est passé avec les vierges folles. Alors évidemment, à cet instant du message, c'est un peu anxiogène tout ça, n'est-ce pas? Si on se réfère à nous-mêmes. Être toujours prêt, être toujours préparé. Parce qu'on ne connaît pas le moment précis où le Seigneur va venir chercher son Église. Et derrière ça, la question qui se profile, c'est « Est-ce que je peux perdre mon salut ?» C'est une question qui anime depuis des siècles les théologiens, hein, selon telle tendance ou selon telle autre tendance. Mais c'est une question qui est tout à fait pertinente. Regardons ce qu'en dit la parole de Dieu. Il faut toujours, quand on a des interrogations telles que celle-ci, toujours chercher dans la parole de Dieu ce qui est dit, ce qu'on peut en tirer. Parce que c'est ça notre arbitre. Hein, ce n'est pas ce que pense l'un ou ce que pense l'autre, parce qu'il a fait des longues études, parce qu'il a fait ceci ou cela. C'est ce que la parole de Dieu en dit. Jean 10, verset 27-29. C'est Jésus qui parle. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. » Et elles me suivent, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Alors comme le berger protège son troupeau, eh bien, le Seigneur protège son peuple de la perdition éternelle. Et si nous choisissons de marcher avec Jésus, on ouvre une parenthèse, ce que ça veut dire marcher avec Jésus. Il faut entendre sa voix. Il faut qu'il nous connaisse. Les vierges folles, il ne les a pas connues. Et il faut le suivre. Alors je peux dire que je marche avec Jésus. Et dans ce cas-là, alors il nous est garanti le salut éternel. Oui, celui qui est vraiment, qui suit vraiment Jésus, eh bien, il peut avoir l'assurance de son salut éternel. Et de telles personnes, elles ne peuvent pas être ravies de sa main par quiconque que ce soit. Parce que celui qui les garde, il est plus puissant que tous, nous dit la parole. Cependant, est-ce qu'il est possible de rétrograder dans notre relation avec le Seigneur? Que penser de cette affirmation qu'on peut entendre parfois? Sauver un jour, sauver toujours. Vous avez déjà entendu ça? Sauver un jour, sauver toujours. Alors encore une fois, on va regarder ce qu'en dit la parole de Dieu. Hébreux 10, verset 35-36. Nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Au verset 38, il est dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Au verset 39, il est dit « Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Amen. Alors, il me semble qu'il est clair que personne ne peut nous arracher à la main du Seigneur, sauf nous-mêmes. Sauf nous-mêmes. Le salut ne se perd pas dans le sens où on vient de le voir, mais le salut, on peut le rejeter. Jude 1, verset 21, nous dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Il faut vouloir rester attaché au Seigneur. Il faut persévérer dans la foi. Et si quelqu'un ne veut plus continuer avec lui, ne veut plus continuer avec le Seigneur, consciemment, volontairement, sans s'en repentir, alors Dieu ne le forcera pas. Hébreux 10, 23, dans la version second 21, nous dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Alors peut-être que ce matin, quelqu'un s'inquiète parce que il ne veut pas du tout rejeter le Seigneur. Ce n'est pas du tout son objectif, mais il se sent tellement incapable de répondre à ses attentes. La liste qu'on a énumérée tout à l'heure, elle paraît tellement difficile. Être sans tache, être sans rides, être irrépréhensible. Effectivement, c'est un challenge, un défi. Mais il faudrait rassurer cette personne, parce que déjà, ça doit être le cas de plus d'une personne ce matin parmi nous. 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24. Je veux dire que c'est légitime d'avoir ce type d'interrogation. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Ça veut dire que si nous marchons avec le Seigneur, dans la foi, dans l'obéissance, si nous lui faisons confiance, alors il nous rendra prêts pour son retour. Amen. Alors Dieu, il reste silencieux quant au jour et à l'heure de ce retour en gloire. de son fils. Mais il en a donné quand même quelques signes annonciateurs. Et il y a plusieurs textes qui nous parlent de ces signes, alors on va en citer quelques-uns, il y en a d'autres. Hein. Dans Matthieu 24, versets 6 et 7, il est dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. » Un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Verset 9-14. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Luc 21, verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alors on voit que tous ces signes-là ne sont pas tous avérés, me semble-t-il. Mais en tout cas, le Seigneur donne des avertissements pour que nous ne soyons pas surpris, toujours dans cet objectif, de nous rendre prêts. Alors, il parle de guerre, au pluriel, de bruit de guerre, au pluriel, de catastrophe naturelle, au pluriel, de la persécution des chrétiens, des faux prophètes. On sait qu'il y a toujours eu des choses de cette nature, depuis très longtemps. Et ces différents signes, ils ont pu apparaître au cours des siècles passés. Mais ce qui avait manqué jusqu'à présent, en fait, c'était la multiplicité de chacun de ces indicateurs, ainsi que leur réalisation simultanée dans un contexte mondialisé. C'est ce que veut nous dire l'expression qui est employée deux fois, « en divers lieux ». Donc, des événements qui se produisent en divers lieux et qui se répètent de plus en plus souvent. Et chaque fois qu'un événement qui correspond à ces critères que nous venons de lire, chaque fois qu'un de ces événements se réalise, eh bien c'est une chance pour les chrétiens de se réveiller, en référence à la parabole des 10 vierges. Et c'est ainsi que Jésus nous dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Matthieu 24, verset 32-33. Donc c'est la parabole du figuier. « Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Vous rappelez, c'est le titre, hein ?« L'été est proche. » On sait ce que ça veut dire. Au-delà du premier sens. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Alors cette courte parabole, en fait, elle veut aider le croyant à discerner les signes des temps, comme en fait le paysan distingue les signes de la nature qui président au cycle des saisons. Et c'est quand les bourgeons commencent à apparaître que le paysan sait que l'été peut venir à tout moment. Mais pour bien comprendre ce qui nous est décrit, il faut connaître le contexte de la parabole, parce que autrement, c'est pas extraordinaire ce qui est annoncé là, cette histoire de bourgeons, etc. Mais il faut comprendre le contexte. Déjà, il faut savoir qu'en Israël, il n'y a que deux saisons, l'hiver et l'été. L'été, la saison sèche, pendant 6 mois, il ne va pas pleuvoir. Et puis l'hiver, la saison des pluies. Et ce qui est parlant, ce qui nous enseigne quelque chose ce matin, en fait, c'est la liaison entre ces deux saisons, saison sèche, saison des pluies. Dans un pays comme en Israël, il n'y a pas de passage progressif. Il n'y a pas un vrai printemps entre l'hiver et l'été comme en Europe. Et on passe de l'un à l'autre, de l'hiver à l'été, en fait, par un très court printemps. Et ce qui est intéressant, c'est que on ne sait jamais combien de temps il va durer ce printemps. On ne sait pas si c'est de quelques jours à quelques semaines. Ça dépend des années, en fait. Mais personne n'en sait rien. Personne n'est capable de le dire à l'avance. Et donc, pour anticiper ses activités, eh bien, le paysan doit se référer à l'évolution des arbres qu'il voit. Et quand les bourgeons commencent à apparaître, il sait que l'été peut venir à tout moment. Mais il ne sait pas dans combien de temps. Est-ce que ça va être dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines? Ça, personne ne peut le savoir. La seule chose qu'il sait, c'est que ça ne va pas être très long. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours. Il sait que ça ne va pas être très long, mais il ne sait pas quand. Alors vous suivez le développement, n'est-ce pas? Donc il sait discerner les signes qui indiquent la fin de l'hiver et l'arrivée de l'été, mais il ne sait pas en fait combien le printemps va durer, quelle va être cette période-là. Et pour ça, eh bien, il doit prendre toutes ses dispositions pour assurer en fait la pérennité de ses cultures. Parce que quand ça passe de l'hiver à l'été, on passe d'un coup de la pluie au sec. Hein, et les cultures, si elles ne sont pas alors à ce moment-là irriguées hein, par la main de l'homme, en fait, eh bien, ça ne va pas. Hein. Donc le figuier, en fait, il évoque les signes de la venue du Messie dans cette parabole. Les bourgeons, ce sont les signes que Jésus a donnés, nous a donnés. Ils sont comme les bourgeons du figuier, en fait, pour nous. Et le croyant, eh bien, comme l'agriculteur qui sait quand on arrive à la fin de l'hiver, eh bien, le croyant, il sait qu'il y a des signes du prochain retour de Jésus. On en voit, on en a vu, on en voit. Mais il ne sait pas quand. Il ne sait pas quand. Mais il sait qu'il peut revenir à tout moment. Comme pour l'agriculteur en Israël, eh bien, on peut passer de l'hiver à l'été en 1 jour, en 2 jours. Hein, mais c'est une césure radicale, un changement total en 1 jour, en 2 jours. Et donc Jésus dit dans sa parole, ce qui est important, en fait, c'est d'apprendre à persévérer, c'est d'être prêt. Alors la prochaine question concernerait évidemment le comment être prêt. Qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Mais ça sera l'objet d'une autre étude. Hein. Amen. Seigneur, aide-nous à être prêt en tout temps. Donne-nous, Seigneur, le discernement spirituel dont nous avons besoin pour ne pas être surpris, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous aide à mettre en œuvre dans nos vies ce que tu attends de nous, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui entendront un jour, dans Matthieu 25, verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Amen. Amen.